Tournons ensemble dans Colossiens. La semaine passée, vous avez passé à travers la prière dans Colossiens. Hein? Juste avant ce matin, on va commencer à partir du verset 15, mais j'aimerais qu'on tourne à partir du verset 12. Le verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » C'est tout de suite l'introduction, tout de suite au passage qui suit. Même si dans votre Bible, il y a une division, là, hein, il y a un titre qui est donné, la divinité de Christ. Mais là, ce passage-là, la divinité de Christ commence, OK, quand il a dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est presque l'introduction au passage qui suit. N'oublions pas que dans la Bible originale, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, de numéro, là. Il n'y a pas de titre non plus là-dessus. C'est une lettre, c'est écrit d'une frippe, d'un bout. Ce matin, le thème du passage qu'on va regarder, des versets 15 à 23, M. MacArthur, il appelle la prééminence de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, la prééminence? Première place. Et je vais vous lire ce que M. MacArthur lit, nous parle quand il parle de la prééminence de Christ. Il dit, la Bible est par-dessus tout le livre qui parle de Jésus-Christ. L'Ancien Testament relate la préparation de sa venue. Les évangiles le présentent comme Dieu fait homme, venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dans les actes, le message du salut en Christ commence à se répandre dans le monde. Les épîtres détaillent la théologie de l'œuvre de Christ et la personnification de Christ dans son corps, l'Église. Enfin, l'Apocalypse présente Christ sur le trône, régnant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Toute l'Écriture témoigne de Christ. On lit dans Luc 4, 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il nous expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Dans Jean 5, 39, Jésus dit des Écritures, « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Philippe a prêché à l'eunuque éthiopien en utilisant le livre d'Ésaïe. On voit ça dans Actes 8, 35. Mais de tout l'enseignement biblique sur Jésus-Christ, aucun n'est plus important que celui de Colossiens 1, versets 15 à 19, qu'on va regarder ce matin. Ce passage saisissant élimine tout doute et toute confusion inutile quant à la véritable identité de Jésus-Christ. Il est indispensable à une bonne compréhension de la foi chrétienne. Donc, on regarde un texte très important ce matin par rapport à la personnification de Christ. Christ est, dans sa personne, Dieu et homme, OK? Les deux. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est seulement homme, comme on ne peut pas dire qu'il est seulement Dieu. Il est à la fois Dieu et homme en une personne. Demandez-moi pas de l'expliquer, là, mais on le voit dans la parole de Dieu. C'est clair, net et précis. Souvent, il compare aussi, quand il parle de l'unité de la Trinité, c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il compare un peu au mariage. Alors, Anne et moi, nous sommes un. OK, mais c'est quand même une pauvre image. Ma femme va rester une unité entière quand moi je vais mourir et vice-versa. Oui, nous sommes un. Je connais ma femme maintenant, je lui pose une question, j'attends même pas la réponse, je la connais la réponse. Je la connais. Ben quoi, je me trompe encore, hein? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais tandis que dans la Trinité, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit comme trois personnes distinctes, trois jobs distincts, trois responsabilités distinctes, mais une personne. C'est ça, et on doit l'accepter. Un corps à trois brins forme un câble, mais les trois brins sont distincts l'un de l'autre. Tandis que les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont distincts l'un de l'autre, mais c'est une personne. C'est plus compliqué que cela. Ça, c'est, on essaie de l'expliquer avec notre connaissance, mais notre connaissance est limitée. En réalité, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'on essaie d'expliquer Dieu. Puis là-dessus, on ajoute que Jésus-Christ, une des trois personnes de la Trinité qui ne sont qu'une personne, donc Jésus-Christ qui est une personne de la Trinité qui n'est qu'une personne, en plus, il est à la fois Dieu et homme, mais la même personne. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Et toute personne qui nie cela est blasphématoire par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Et quand Dieu le dit, c'est la vérité. Quand moi, je vous dis quelque chose, on dit la vérité, mais des fois, on l'étire un peu ou on la rapetisse un peu. Rappelez-vous, quand on était jeune, plus jeune, là, pour ceux qui sont, même ceux qui sont jeunes, là, plus jeunes, et qu'on allait raconter un mauvais coup qu'on avait fait à papa et maman, on le disait comment? Ouais, mais là, on s'est fait pogner, OK? Là, du bout des lèvres, et on l'arrangeait à notre avantage. Celui qui avait été lésé, qui avait été la victime, lui le disait à son avantage. Tu mets les deux histoires côte à côte, c'est pas la même histoire. OK? Ça, c'est nous autres. Ça, c'est l'être humain, c'est le pécheur. Tandis que Dieu n'est pas pécheur. Dieu dit qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit, et on doit l'accepter par la foi. Et c'est très important parce que ce matin, on va parler beaucoup de la divinité de Jésus-Christ, et on va parler aussi de son humanité, et on va parler de son sacrifice, etc. Donc, on va prendre le temps de regarder ça. Intéressant de voir que ces points qu'on va regarder ce matin sont des points centraux par rapport aux hérésies qu'il y a à Colosse et qui sont aussi ici, aujourd'hui, à Montréal. Ça porte sur la personne de Christ qui nie son humanité ou qui nie sa divinité, l'un ou l'autre. Combien disent qu'il ne peut pas être homme et Dieu? Combien disent qu'il ne peut pas être Dieu et homme? Ils nient l'un ou l'autre. Ils ne mettent pas les deux ensemble. Pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Les trois premiers chapitres de Colossiens dénoncent le rejet de l'humanité de Christ, dénoncent le rejet de la divinité de Christ et dénoncent le culte rendu à des anges. Rappelez-vous, dans l'introduction, il parle beaucoup du culte, de tout ce qui est spirituel. Et tout ce qui est spirituel, que ce soit Dieu ou les anges, ne peut pas être matériel. Alors, nous sommes matériels. On a un peu plus que du matériel, on a une âme, mais physiquement, nous sommes matériels. Et ce qui est matériel, selon ce que les philosophies de Colosse, ne peut pas être spirituel. L'un et l'autre, ça marche pas ensemble. C'est trop bas, le matériel. C'est trop en bas. Et le spirituel est trop haut. Tandis que Dieu veut nous montrer clairement que lui est capable de s'abaisser à ce qui est bas. Et que nous, grâce à lui, nous sommes capables de nous élever à ce qui est haut. Très profond, ça. Mais sans Christ, on ne voit pas un Dieu qui s'abaisse à ce qui est bas. Et sans Christ, on ne voit pas un homme qui s'élève à ce qui est haut. Lisons ensemble. Quelqu'un va nous lire des versets 15 à 23.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, l'invisible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.
L'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Prenons le temps de nous arrêter sur le mot « image ». Image, en grec, c'est E-I-K-O, accent circonflexe, N. Je connais pas la prononciation, mais disons c'est icon, quelque chose comme ça. Et du mot icon est sorti le mot icône. Et au lieu de bien comprendre que Jésus est Dieu, dans cette expression-là, qu'il est l'image du Dieu invisible, l'être humain en a fait des icônes. Et dans la religion orthodoxe, chez les Roumains, par exemple, dans la religion orthodoxe, chez les Grecs aussi, les icônes sont super importantes. Où on habite chez nous, là, j'ai un ami qui a des abeilles, et son épouse a des icônes partout dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, la première chose qu'elle fait, elle touche une icône. Un peu comme les Juifs qui touchent, je ne sais pas trop, là, une pierre spéciale chez eux en rentrant. Intéressant de voir le mot icône. Et pourtant, ça va contre ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, tu ne te feras pas d'image de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se faire d'image de Dieu? Pour l'idolâtrie, pour ne pas idolâtrer. Un, et à part de ça, qui suis-je pour faire une image de Dieu? Intéressant de voir que de tout ce qui reste de Jésus-Christ, c'est quoi? Nous n'avons pas un vêtement qu'il a porté. Même si à Turin, l'Église catholique romaine dit qu'ils ont le Saint-Suaire de Turin, qui est un vous connaissez le mot canular? Un canular, c'est un mensonge. Ça a été prouvé maintenant qu'il n'y a rien à voir avec Jésus-Christ. Il n'y a rien qui nous est resté entre les mains de matériel concernant Jésus-Christ, même pas un morceau de bois de la croix. Même quand on va à Jérusalem et qu'on nous dit, qu'on nous fait visiter le tombeau, quand on regarde partout, ils disent « ça pourrait être le tombeau », mais rien ne nous dit que c'est le tombeau. Pas plus de Paul, pas plus de, on remonte plus loin, pas plus de du temps d'Israël, de tout ce qui touche le tabernacle, de tout ce qui touche les tables de la loi, etc. Pourquoi il ne nous reste rien? Parce qu'on aurait adoré ces choses-là. Nous sommes ainsi faits. C'est beaucoup plus facile d'adorer une représentation, un cossin qu'on a trouvé, que de représenter, d'adorer un Dieu qu'on ne voit pas. Ça demande beaucoup plus de foi. Exact, hein? Donc, les icônes, le mot icône fait avec le mot image. Jésus-Christ, image parfaite du Dieu, absolument exact. Hébreux 1, verset 3, on n'y va pas, je vous dirai quand on ira, vous. Il nous écrit qu'il a été de toute éternité. Il n'est pas né à Bethléem. Il est né physiquement à Bethléem. Mais Jésus-Christ a été de toute éternité. D'autres textes dans la parole de Dieu nous disent qu'il est l'empreinte de Dieu. C'est encore plus personnel qu'une image, l'empreinte de Dieu. Philippiens 2:6 nous dit qu'il est en forme de Dieu. Jean 14:9 nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et dans Jean 1:14, nous avons contemplé, pas la gloire de Christ, nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Dieu, en voyant Christ devant nous autres. L'unité entre le Père et le Fils est Dieu. On peut pas dire ça de nous autres. De plus en plus de personnes me disent « Dominique, tu ressembles de plus en plus à ton père. Tu parles comme ton père. Tu as les cheveux comme ton père, etc. » Jésus-Christ et Dieu sont une personne, l'empreinte de ta personne. Dieu fait chair. Hein, vous connaissez ça, Jean 8, 58, Jean 10, 30, 33. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. C'est Dieu qui descend et qui se présente à nous en chair physiquement. Et il écrit un témoignage unanime par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Jean 1, Jean, Romains 9, Philippiens 2, Colossiens 2, Timothée, ou Tite 2 plutôt, Hébreux 1, etc., 2 Pierre, plusieurs références qui nous parlent que Jésus-Christ est Dieu. Et ça, là, dès qu'on ne le croit plus, nous devenons un antichrist. Un antichrist. Et c'est la même chose. Dès qu'on ne croit plus que le Père et le Fils sont un, nous devenons un antichrist. Et c'est blasphématoire. Penser autrement, c'est blasphématoire. Il est aussi, quand on continue, le premier-né de toute la création. On va s'arrêter quelque temps là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire être le premier-né de la création? La prédominance de Christ sur la création. Attention, beaucoup de groupes religieux différentes religions ont cherché un appui dans cette expression. Entre autres, le témoin de Jéhovah. Voyez, il a été créé. Il est le premier-né de la création. Attention, un être créé ne peut pas être un Dieu éternel. Si Jésus-Christ a été créé, il n'est pas un Dieu éternel. Et on va développer ça. Ça désigne la position. Ça désigne le rang. Ça désigne celui qui a droit à l'héritage. C'est ça que ça veut dire, le premier-né. Je suis le premier-né de ma famille, avec mes frères. Okay? Je suis celui qui, officiellement, dans le temps, et plus comme ça maintenant, là, aurait droit du temps des Juifs à l'héritage. Ésaü est l'aîné. mais il n'a pas eu droit au rang de premier-né. Jacob, qui était son frère qu'il suivait, est celui qui est appelé le premier-né. Pourquoi?
Parce qu'il a volé son droit d'aînesse.
Voler, c'est fort un peu. Voler, c'est fort. Il a usé de ruse avec Ésaü, mais Ésaü a manqué de respect envers son droit d'aînesse aussi. Et il a usé de ruse, c'est vrai, avec la complicité de sa mère, un couple très uni. Je sais pas, il me semble que ça a dû faire des chicanes par la suite. Mais à cause de cela, il a eu la bénédiction de son père comme premier-né. Et celui qui s'est appelé Israël ne s'appelle pas Ésaü, c'est Jacob. Intéressant de voir l'héritage qui a suivi dans tout ça, et il est appelé le premier-né. C'est juste un exemple. Israël est appelé le peuple premier-né. Est-ce que Israël était le peuple premier-né de toute la terre? Non, non. Pourquoi il est le premier-né? À cause? À cause de l'héritage. C'est le peuple de Dieu. Dieu lui donne son héritage. Donc, c'est une question d'héritage et de place, le plus élevé. Dans le psaume 89, on voit « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » On parle de David, bien entendu. Alors, intéressant de voir comme quoi que tout ce qui touche le premier-né a rapport à l'héritage, a rapport à un rang, a rapport même à une fonction des fois, et non nécessairement au fait qu'il a été créé premier-né. OK? Qu'il a été créé. Dans Romains 8, 29, il le désigne comme premier-né par rapport à l'Église. Christ est l'aîné de l'Église. Bon, il est l'essence même de l'Église, il est même la source de l'Église, mais il est considéré le premier-né. Dans un certain sens, c'est vrai, parce qu'il est appelé le premier-né entre plusieurs frères dans d'autres passages. Intéressant de voir ça. D'autres raisons de rejeter l'idée selon laquelle cette expression fait de Jésus un être créé. Dans Jean 1, 18, il est appelé le Fils unique. S'il est un être créé et qu'il est appelé le Fils premier-né, il ne peut pas être unique. Quand on a juste un enfant, est-ce qu'on l'appelle notre aîné, notre premier-né ou notre Fils unique? On l'appelle notre Fils unique. C'est officiel qu'il est l'aîné, c'est officiel qu'il a le droit à l'héritage. L'un contredit l'autre, qu'il a été créé premier-né, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il a été premier-né à cause de sa fonction et Fils unique aussi à cause de sa fonction. Mais il y a une chose, Dieu n'avait pas besoin d'un autre Fils pour prendre notre place sur la croix. Alors, ça ne s'accorde pas avec le contexte de Paul aussi dans le passage qu'on regarde, quand il dit que Jésus est l'image parfaite, juste le passage avant, là, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si on considère que premier-né veut dire créé, il y a une contradiction entre l'image du Dieu invisible puis qu'il est créé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une contradiction, là. Il peut pas être à la fois Dieu et créé. Donc, la parole de Dieu se contredit pas. Il est à la fois Dieu et il est à la fois le premier-né par sa fonction. Et c'est pour ça aussi qu'ils veulent aussi ressortir comme quoi que avant que la création du monde soit faite, Christ était déjà là. Il était premier-né de toute la création, avant la création. On va leur développer un petit peu plus loin. Le verset 17 déclare qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui. Regardez le verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prioritaire est avant toute la création. Alors, rien n'est sans lui, on se rapproche.
Il a fait toute chose, il a fait par lui.
Mais il y a un peu plus que ça.
Quand il dit qu'il est, ça a un rapport avec « je suis » dans l'Ancien Testament.
On va le développer parce que « il est » quand même, ce n'est pas la même conjugaison que « je suis », ce n'est pas le même mot tout à fait. On va le développer un peu plus loin. Parce que toute chose subsiste en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est le Créateur. Sans lui,
on ne peut rien faire.
Il n'y a rien. Si toute chose subsiste en lui, il est celui qui tient toute chose. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu tient toute chose dans ses mains. La parole de Dieu nous dit que toute chose subsiste en lui. Puis il vient de parler qu'il est avant toute chose et ces choses-là subsistent en lui. Mais quand tu regardes des documentaires sur la grandeur de l'univers, c'est incroyable. Et que nous, sur la terre, nous sommes même pas un grain de sable dans tout l'univers. Nous sommes rien par rapport à la grandeur de l'univers. Et quand on dit que chaque étoile, chaque constellation, chaque système reste à sa place, tourne dans un temps régulier, peuvent prévoir que dans X nombre de temps, nous aurons une éclipse solaire, dans X nombre de temps, nous aurons une éclipse lunaire, dans X nombre de temps, nous aurons une éclipse de la Lune par la Terre, comme on a vu récemment, là. Tout ça, c'est parce que les mouvements bougent et toute chose subsiste en lui. La grandeur de Dieu dans l'univers, la grandeur de Dieu dans sa création. Et même Romains chapitre 1 dit que tous ceux qui renient Dieu et renient Jésus-Christ indirectement, ils sont inexcusables parce qu'ils ne l'ont pas vu dans sa création. La création est superbe, hein? Que ça soit en été, en automne, en hiver, la création est superbe. Et quand l'hiver passe et qu'on a gelé pendant X nombre de semaines et de mois, qu'est-ce qui arrive au printemps?
Tout renaît.
Tout renaît. Les fleurs, les crocus, là, ils passent à travers la neige. On a d'autres fleurs, les personnages, qui passent littéralement à travers la neige. Et ça, ça revient saison après saison, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, depuis la création du monde. Toutes choses subsistent dans sa main. Intéressant de voir comment Dieu est bon. Il y a plusieurs années, dans les années 60, lorsque j'étais un étudiant au secondaire, beaucoup d'États arabes disaient « Nous allons faire fleurir le désert. » Parce qu'ils avaient découvert comment aller chercher de l'eau à des profondeurs incroyables. Et ils disent « Nous allons faire fleurir le désert. » Et ils ont fait effectivement fleurir le désert. La plupart des jardins, des fruitiers, n'importe quoi, oliviers, n'importe quoi, qui en Israël viennent du désert. Mais pourtant, est-ce que c'est ces peuples-là qui ont fait fleurir le désert? Non, Dieu a fait fleurir le désert. Et quand on ôte les choses que Dieu a beaucoup contrôlées dans l'Ancien Testament, quand on parle de la pluie, là, qu'est-ce qui arrive dans le désert après qu'on l'a fait fleurir puis qu'on ôte la pluie, qu'on ôte l'eau? On retourne au désert, exactement. OK, verset 16-17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le mot chose revient souvent. D'autres appuis de la divinité, Jésus-Christ. Il est le Créateur, c'est clair. Hein, OK, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ est puissant. Il n'est pas seulement un homme. Il n'est pas seulement, entre guillemets, un prophète. Il n'est pas seulement quelqu'un qui a fait des miracles, des guérisons. Il est Dieu lui-même. Il est le Créateur, avant toute chose. Et vous pourriez aller voir ça dans Jean 1, dans Hébreux 1, etc., dans 1 Jean 1, l'importance de la prééminence de Christ, même dans la création. Il dit, Jésus a dit, « Je suis ». Jean 8, 58.
Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ».
L'importance du mot. Quand il a dit ça, Jésus, aux Israélites qui étaient là, eux, ils ont compris. Il n'y a que deux. Dieu qui a dit, je suis celui qui suis. Pas celui qui était, celui qui est. Je suis celui qui suis. Si vous écrivez ça dans votre cours de français en grammaire, ils vont vous donner une punition. Ce n'est pas français, ce n'est pas de la grammaire. Mais c'est un mot qui veut dire, il emploie le mot Yahvé, je suis. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Jésus-Christ l'utilise pour lui-même. C'est sûr que c'est un blasphème s'il n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ ne blasphème pas son Père. Quand il dit tout le temps, le Père et moi, nous sommes un, et là qu'il emploie le mot « je suis », c'est plein de signification. Et c'est ça qu'il a besoin d'expliquer aux Colossiens, d'affermir leur foi que Jésus-Christ est Dieu. Car autour, on veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu parce qu'il est homme. Et c'est la même chose dans certains mouvements qui vont vous dire qu'il n'est qu'un prophète, ou qu'il n'est ci, ou qu'il est ça, ou qu'il n'est pas ci, ou qu'il n'est pas cela. Donc, important de voir Jésus-Christ et je suis. On va le retenir, Jean 8, 58. On n'ira pas, mais dans Michée, il parle au jour de l'éternité. Il était là. Dans Apocalypse 2, 22, 13, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». L'alpha et l'oméga, c'est première et dernière lettre. Puis après, il explique « Je suis le premier et le dernier ». Il n'y en a pas d'autre. « Je suis ». Verset 16, il dit « Trône, dignité, domination ». Il a une autorité autour de tout ce qui a été créé. Et après, il va un peu plus loin, il va visible, invisible, puis là, il dit trône, dignité, domination, autorité. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Trône, dignité, domination, autorité. Verset 16, à la fin du verset.
Il est souverain, oui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il est au-dessus des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. On parle de quoi, là? C'est quoi, ces affaires-là? C'est spirituel.
Unique.
C'est unique. Mais quand on parle des trônes, on parle de quoi? Des souverains, OK? Des trônes, on parle d'un souverain. Donc, on peut le prendre de deux manières. Vu que précédemment, il parle des choses créées, invisibles et visibles, on peut le prendre sur le côté visible. Il est au-dessus des trônes de la terre, les gouvernements, etc. On peut le prendre invisible. Il est au-dessus des trônes qu'on ne voit pas, que ce soit les anges démoniaques, que ce soit Satan, il est au-dessus des trônes. Dignité, même chose. On appelle quelqu'un qui vient nous visiter. Si la reine vient nous visiter ou un premier ministre vient nous visiter, on appelle ça un dignitaire. OK? Donc, les dignités, même chose. Domination. Je sais pas, j'irais plus vers le côté invisible, les dominations. Hein? La domination de Satan. Satan est appelé le prince de ce monde. Hein? Le prince de ce monde. Alors, on peut mettre ce côté. Autorité, la même chose. Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui est autorité, ou sur terre, ou dans le ciel, ou ailleurs. Toute autorité. Et ça, on pourrait aller voir ça dans Éphésiens, dans Philippiens, dans 1 Pierre. Il n'est pas un ange, comme certaines doctrines de Colosse voulaient dire, mais il est le créateur des anges. Il n'est pas un ange, il est le boss, le patron des anges. C'est lui qui dit aux anges, voilà, c'est lui qui sert les anges. D'ailleurs, quand Satan a voulu tenter ou a tenté Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y avait des anges. Si je voulais, je pourrais appeler une multitude d'anges pour me servir. Intéressant le mot multitude, la multitude des anges. La doctrine des anges est intéressante à étudier, ça. Les anges sont au service de Dieu, au service de Christ, et les anges viennent et prennent soin de nous aussi. Intéressant de voir, hein? La doctrine des anges. Donc, il est au-dessus de tout, il est souverain. La souveraineté de Dieu est une doctrine capitale. Si mon Dieu n'est pas souverain de tout, il est souverain, Dieu est souverain en tout. Et ça, on devrait y penser lorsque nous prions. Dieu est souverain, Dieu est en contrôle de tout. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et ça, on ne le comprend pas. Je suis certain que Roger, il comprend un peu. Roger vendait des Honda. Alors, à cause qu'il vendait des Honda, il a rencontré celle qui est sa femme aujourd'hui. Mais plus important, à cause qu'il vendait des Honda, il a rencontré Sandra. Sandra lui a parlé de Christ et il a rencontré Christ. Il n'y a pas de hasard. Dieu est souverain. À cause que mon père a été mis en contact avec un chrétien en France qui lui a donné un Nouveau Testament et qu'on est venu en bateau au Canada et que mon père, quand il met le pied sur un bateau, il est malade et que ça prend 6 jours de traverser dans ce temps-là, en 57, et que mon père a lu tout le Nouveau Testament et qu'il nous a inscrit, ben, m'a inscrit, moi, à l'école protestante et que le directeur, ça aurait pu tenir pour laquelle religion, sauf catholique, puis un chrétien, et qu'il l'a mis en contact avec l'Évangile, mon père s'est converti. Dieu est souverain en toutes choses. Son bras n'est pas raccourci. Et son bras n'est pas raccourci non plus lorsqu'on prie pour le salut de nos enfants. La parole de Dieu nous dit de prier selon sa volonté. Où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Dans sa parole. C'est la première place où on va trouver la volonté de Dieu. Ce que moi je pense avoir entendu que Dieu me dit, si c'est en contradiction avec la parole de Dieu, je suis dans le champ. Celui qui m'a parlé, ce n'est pas Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'a qu'une parole. Il n'est pas comme moi, OK? Dieu n'a qu'une parole. Et où trouver la volonté de Dieu? Dans sa parole. Et quand je le dis souvent, quand quelqu'un vient me voir, me demander mon opinion, M. Guichard ou pasteur d'homme ou n'importe quel nom, qu'est-ce que vous pensez? Dieu m'a dit. Mais j'ai dit, si Dieu t'a dit, j'ai plus rien à dire. Mais je ne pense pas que Dieu t'a dit ça. Parce que je ne pense pas que c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est en contradiction avec ça, c'est en contradiction avec ça, c'est en contradiction avec ça dans ta parole. C'est en contradiction avec ce que le conseil des anciens pense. Je dis, puis eux aussi sont remplis du Saint-Esprit. En tout cas, ils devraient l'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Christ est la tête de l'Église aussi, verset 18-19. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Il continue à expliquer la prééminence de Christ. Et là, il le parle, il le montre. Il est avant toute chose, qu'on a vu, verset 17 et au verset 18, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né d'entre les morts? Il est le premier ressuscité. De tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, le premier ressuscité s'appelle Jésus-Christ. Il y a eu d'autres résurrections, OK? Entendons-nous, là. Il y a eu d'autres résurrections, là. Mais ils sont morts après. Que ce soit Lazare, là. Lazare a été ressuscité, mais je ne sais pas combien d'années après. Il est remort. Il est mort physiquement. Et nous allons tous mourir, à moins que le Seigneur vienne nous chercher avant. Mais le premier qui est mort physiquement est ressuscité pour l'éternité avec un corps glorifié. Hein, il passe à travers les murs, fait que... Il s'appelle Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Et on voit toute la prééminence. Et là, il parle de Christ comme étant la tête du corps, l'Église. Qu'est-ce qu'il fait dans l'Église? Il fortifie, vous verriez ça dans 1 Corinthiens 12, très bon chapitre quand il parle du corps de l'Église. Il fortifie, coordonne, dirige et il leur donne la vie. Christ fait tout ça pour le corps. Et nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Il est la source de l'Église, on peut le voir. Premier d'entre les morts, on l'a vu. Christ est prééminent, au-dessus de tout nom. Il a en lui toute la plénitude de Dieu. Nous avons tout pleinement en Christ, Colossiens 2, 10. Et Christ est accessible aux croyants. Quand on voit la grandeur, la majesté de Dieu, la grandeur, la majesté de Jésus-Christ, et que nous avons un libre accès, nous voyons la miséricorde, la grâce et l'amour de Dieu. Regardez la politique en ce moment. C'est très difficile d'avoir accès à M. Harper en ce moment. De tous ceux qui font du porte-à-porte pour se faire élire, le seul qui est dur à s'approcher, c'est M. Harper. À moins que lui s'approche de vous pour vous serrer la main quand il fait un bain public, là, dès que quelqu'un s'approche de lui, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qui va le soigner en dehors de là. Dieu s'approche et il l'a fait par Jésus-Christ. Verset 20 à 21. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Beaucoup d'enseignements dans ce passage-là. La volonté de Dieu se réconcilier avec l'homme. Pourquoi il est nécessaire que Dieu et l'homme se réconcilient et que l'homme et Dieu se réconcilient? On a une dette envers lui. Quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont désobéi, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été cachés, oui, séparés avec Dieu. Ils sont tombés sous la colère ou la condamnation de Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, « Si vous touchez de cet arbre, vous mourrez. » La désobéissance a des conséquences. Le péché a des conséquences. Et le premier péché, c'était la mort. Et Dieu a dû chasser Adam et Ève du paradis terrestre où il y avait l'arbre de la vie. Il ne voulait pas qu'ils vivent avec un état de péché. Et là, il a donné toutes les condamnations. Tu vas mourir. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Tu vas mourir, qu'il a dit à Ève. Tu vas avoir des douleurs dans l'enfantement, etc. La terre refusera son fruit. Quand on laisse aller nos vies, les mauvaises herbes poussent. Ça, c'est le péché. L'ivraie, c'est quoi? La parole de Dieu utilise l'ivraie. C'est une mauvaise herbe. C'est la même chose, hein? La terre, à cause du péché, on compte à des mauvaises herbes. Les animaux, à cause du péché, ont des défauts. L'être humain aussi, à cause du péché, a des défauts. L'être humain, à cause du péché, a des maladies, des handicaps, et il meurt à cause du péché. Le besoin que nous avons de Jésus-Christ, le besoin de la réconciliation, c'est afin qu'on ne meure pas spirituellement. Qu'on meure physiquement, bon, ben ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Même s'il y en a beaucoup qui ont essayé de trouver la fontaine de Jouvence, là, jusqu'ici, ils sont tous morts. Ou bien s'il y en a des nouveaux maintenant, mais ils vont mourir anyway. Mais spirituellement, et Dieu ne veut pas cela. Et c'est ce qu'il nous dit dans le verset. Car, OK, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Et quand on dit tout, c'est nous, l'être humain, et la terre entière. Parce que même la parole de Dieu nous dit que même les animaux, la terre entière, souffrent les douleurs de l'enfantement. Et ça, ça remonte à la condamnation en Adam et Ève. Le péché a détruit l'harmonie parfaite entre les créatures et entre toute la création avec le Créateur. Avant le péché avec Adam et Ève, Dieu marchait avec Adam. Il marchait avec Dieu dans le jardin. Fini ça. Dieu a regardé Adam, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, Adam? Est-ce que Dieu le savait? Certainement qu'il le savait. Est-ce que Adam le savait? Certainement qu'il le savait. Puis là, il s'est caché, puis il dit, il a watché ses claques, il dit, je suis tout nu. Hein? C'est le cas de le dire, il était nu devant Dieu. Là. Nous vivons sur une terre maudite, dans un univers maudit. Satan est le dieu de ce siècle et il est le prince de ce monde. Alors c'est dur quand on dit ça, nous vivons sur une terre maudite, mais la malédiction du péché est toujours là. Est-ce que le mot que nous vivons sur une terre maudite, dans un monde maudit, est trop fort? Non. Quelqu'un qui est sous une malédiction, c'est quelqu'un qui est maudit. Mais c'est ça que Dieu veut dire ici. Il a voulu par lui, Jésus-Christ a voulu par lui, tout réconcilier avec lui-même. Intéressant de voir qu'il a voulu réconcilier avec lui-même, pourtant la condamnation et la colère et la séparation est avec Dieu. Lui-même, par Jésus-Christ, il se réconcilie avec lui-même qui est Dieu. Voyez l'unité du Père et du Fils. On continue. Et j'aimerais qu'on aille dans Romains 5, 6, s'il vous plaît. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Quatre points à regarder là-dedans. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes parce que nous sommes sans force, verset 6. Nous sommes sans force, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Deuxième point, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes parce que nous manquons de mérite. Nous étions des impies. Qu'est-ce que ça veut dire, impie, pécheur? Encore une fois, pourquoi on peut rien faire par nous-mêmes? Parce que nous manquons de justice. Nous étions encore pécheurs, verset 8. Et quoi encore? Pourquoi on peut rien faire? Parce qu'il y a un manque de paix entre nous et Dieu. Nous étions ennemis, verset 10. L'homme ne peut rien faire par lui-même pour se rapprocher de Dieu à cause de son péché. Et Dieu ne peut pas voir le péché. Mais Dieu, dans son amour avec nous, il prouve son amour avec nous en ce que lorsque nous étions encore des péchés, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est là qu'on voit tout l'amour que Christ a eu pour nous, la miséricorde que Dieu a eu pour moi, la miséricorde que Dieu a eu pour toi. Et nous allons le louer pour l'éternité, pour la grâce qu'il a répandue. Christ a fait la paix entre Dieu et l'homme par le sang de la croix. On prend le temps de quelques minutes pour parler du sang. On parle beaucoup du sang. Est-ce que c'est le sang qui a coulé sur la croix qui nous sauve ou c'est la mort de Christ qui nous sauve?
La mort de Christ.
La mort de Christ. C'est l'offrande.
Le sang de Jésus.
De Jésus-Christ.
La doctrine du sang est très importante parce que dans l'Ancien Testament, il disait qu'il fallait que le sang coule. Quand on tuait une bête, c'est très important. Puis on aspergeait le sang sur l'autel, etc., etc. La doctrine du sang revient sur la croix. le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais si Christ avait répandu son sang mais n'était pas mort, est-ce que nous aurions été purifiés de tout péché? Non, parce que la condamnation du péché, c'est la mort. Et beaucoup, dans beaucoup de religions, incluant le catholicisme romain, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le sang. C'est pour ça que lorsqu'ils prennent la table du Seigneur, ils appellent le corps de Christ et le sang de Christ, et le vin devient sang et le pain devient corps. Ils appellent ça la transsubstantiation. Trans, changement de substance. Transsubstantiation. C'est bien de valeur. La parole de Dieu ne dit pas ça. Pantoute, qu'est-ce qu'elle nous dit quand on prend la table du Seigneur? C'est un mémorial. Jusqu'à un certain point, tu pourrais prendre un verre d'eau, puis vous comprenez-vous? C'est sûr qu'il y a une image, le sang, le pain, le corps qui est broyé, on comprend tout cela. Mais c'est l'image, on se rappelle la mort de Christ. Christ a subi ma condamnation, ta condamnation, il est mort. Et afin qu'on voit l'importance de la mort qui est reliée à la violence de la mort, le sang a coulé. Mais si Christ était mort, seulement mort, est-ce que nous aurions été sauvés? Oui, c'est...
L'effusion du sang, il n'y a pas de pardon.
Le sang montrait la mort. Mais s'il n'était pas ressuscité, oui, Daniel?
Ben c'est ça, justement, c'est faux qu'il soit ressuscité.
Exact.
En Corinthiens, il dit que s'il n'est pas ressuscité, notre espérance est morte.
Alors, voyez-vous, tout ça est un tout. L'effusion de sang montrait sa mort violente. La mort constatée faisait qu'il était condamné, il est mort. Et la résurrection montrait quoi?
Qu'il est Dieu.
Exact. Sa divinité et aussi sa glorification. Parce qu'il nous promet que nous aussi, nous allons ressusciter. Mais si Dieu lui-même ne ressuscite pas après 3 jours, Pasteur Keith nous disait que le chrétien ne devrait pas porter une croix, il devrait porter, on porte une petite croix des fois, hein, un tombeau vide. La gloire de Christ, c'est le tombeau vide. Il dit on devrait porter une effigie d'un tombeau vide. L'importance de la mort de Christ, le tombeau vide. OK, ça c'est le sang. Le but de la réconciliation est de présenter des élus devant lui, saints et purs. Regardez le verset 22, on retourne dans Colossiens. 22 nous dit, pour vous faire, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, ça c'est le verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut, sans reproche. Frères et sœurs, ce que Dieu s'attend de nous, c'est que nous soyons saints. Est-ce que je peux travailler à ma sanctification? Je dois y travailler. Est-ce que je peux arriver à être parfaitement saint, sans défaut, sans tâche? Celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Il commence à pécher. Est un orgueilleux, pour commencer, donc il a déjà péché. Hein? Donc, l'importance d'être saint. Mais par le sang de Christ, Dieu nous voit saints, purs, sans défaut, sans tâche. Je sais que je ne suis pas saint, pur, sans défaut, sans tâche. L'importance du... Pourquoi sans défaut? Pourquoi l'agneau devait être offert sans défaut? Réfléchissez. Les défauts que nous avons, okay? Les maladies que nous avons, les infirmités que nous avons, que les animaux ont, sont des signes de quoi? De la condamnation du péché. Donc, on doit présenter, c'est vrai qu'il fallait présenter un agneau sans défaut. Parce que tout cela, je veux pas condamner personne, ceux qui sont en chaise roulante, là. Je veux pas dire que vous avez plus de défauts que les autres, là. Pas ça du tout. Mais toutes les maladies qu'on a, toutes les faiblesses qu'on a, toute l'arthrite qu'on a, toutes les tendinites, il y a une tendinite dans le coude gauche, toutes les maladies qu'on a, le fait qu'on a plus de cheveux sur le dessus de la tête, tout ça, c'est des condamnations. Ça fait partie du péché. La mort, le vieillissement fait partie du péché. Toutes des condamnations du péché. Le but de la réconciliation, d'être présenté pur, saint, sans tâche. OK, sans défaut. La semaine prochaine, je vais prendre le temps de parler du verset 23. C'est très profond, le verset 23, et on va le lire ensemble. Si du moins, toujours à la suite du « devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature dans le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » On va discuter la semaine prochaine sur les trois premiers mots de ce verset-là. « Si, du moins. » Parce que si je lis seulement ça, je me dis « Wow, je peux perdre mon salut. Je peux perdre la grâce de Dieu sur moi. » Parce que je dois, quand il y a un si, ça veut dire qu'il y a une condition qui suit après. Hein? Tu dois peindre ta maison si tu achètes la peinture. Si tu n'achètes pas la peinture, tu ne peux pas peindre ta maison. Le si. Tu vas avoir une paye à la fin de ta semaine de travail si tu vas travailler. Si tu ne vas pas travailler, pas de paye. Comprenez ce que je veux dire, l'importance du si ici. Donc, on prendra le temps la semaine prochaine, en commençant, de regarder tout ce qui touche la persévérance dans le salut. Tout ce qui touche, qui suivent, de demeurer ferme, inébranlable dans la foi. Qu'est-ce qu'on fait avec les branleux? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui manquent de persévérance? Est-ce qu'on les envoie en enfer? Comprenez ce que je veux dire? Donc, on prendra le temps de discuter là-dessus la semaine prochaine. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole.